Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Et on se retrouve encore dans la fameuse caravane de Radio Résistante avec autour de nous plein de monde. Il y a Lola que je laisse se présenter.
Je suis journaliste pour la revue indépendante Silence et j'ai notamment réalisé un dossier d'enquête sur l'agrivoltaïsme, les projets photovoltaïques sur terres agricoles dont on va parler.
Aurélien.
Alors je suis enseignant-chercheur à Toulouse.
Puis ensuite...
Valentine, je travaillais chez un développeur d'énergie renouvelable, notamment sur les projets de centrales photovoltaïques au sol et les projets agrivoltaïques. Et j'ai déserté ce poste et maintenant je milite contre ces projets.
Et donc Loïc Santiago, là pour la Confédération Paysanne de l'Aveyron, et je travaille pour le journal L'Empaillée, pour qui j'ai réalisé quelques articles sur le sujet.
Et ce matin, vous étiez tous les quatre réunis lors de l'atelier qui avait pour thème lutter contre un projet photovoltaïque. Est-ce que cet atelier a atteint vos objectifs ?
Je pense que ça a bien atteint nos objectifs qui étaient d'alerter sur les dérives des projets photovoltaïques qui sont une manière en fait de faire de la spéculation sur des terres agricoles et de... qui sont directement une compétition entre de la production alimentaire et de la production énergétique qui ne va pas en diminuant et qui fait que s'accumuler aux énergies déjà produites actuellement. Et donc l'objectif, c'était à la fois d'alerter dans le public militant intéressé par la question écologique de ce phénomène qui est assez récent, là, qui s'est développé depuis 2-3 ans et qui est en plein essor aujourd'hui avec une loi qui est passée il y a quelques mois. Et puis aussi de... commencer d'initier une coordination au niveau des collectifs militants contre des projets locaux de photovoltaïque sur des terres, qu'elles soient agricoles ou forestières. Et c'était assez motivant de voir une dizaine de collectifs réunis à la fin de cet moment d'échange parce qu'il y a vraiment un besoin de se coordonner au niveau national pour pouvoir être plus forte et plus fort à s'opposer à ces gros projets, ces gigantesques industriels de l'énergie. Et aussi une urgence là avec les nouvelles réglementations qui sont en train de se mettre en place. Donc on était plutôt contentes et contentes de voir cet engouement et cette organisation qui est en place.
Il n'y avait pas un projet de déclaration commune, il me semble ? Non ?
Alors le projet, en effet, c'était de pouvoir initier une déclaration, une tribune commune qui allie un ensemble de collectifs et d'organisations qui s'opposent à ces projets de façon très claire et en expliquant pourquoi. Après, l'idée, c'était pas de l'écrire dans la matinée à 300 sous un chapiteau, mais par contre, on a pris contact pour déjà faire le début de ce réseau qui pourra écrire ce texte et ça va être écrit, je l'espère, prochainement. En tout cas, la motivation pour ça.
Loïc.
Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a souhaité faire émerger cette thématique au sein des résistantes, puisque c'était vraiment une thématique d'accaparement des terres qui va potentiellement concerner 500 000 hectares en France, c'est-à-dire potentiellement 1 hectare sur 50, donc ce n'est pas rien. Et donc, comme l'a dit Lola, on souhaite tout au long de l'été continuer à faire émerger cette thématique. Et à la fin de l'été, on se re-rencontre avec d'autres collectifs en lutte du nord et du nord-est de la France à Bure pour deux journées d'information et de travail pour peaufiner, réesquisser, retravailler cette idée de déclaration commune, justement pour montrer que ce sujet d'agrivoltaïsme, ce terme marketing ou ce cheval de Troie...
Un terme que tu reprends, Loïc, là, alors qu'on m'a dit ce matin, non, il ne faut pas utiliser agrivoltaïsme, il faut parler de photovoltaïque.
Je me fais moi-même avoir. Donc, ce photovoltaïque sur les terres agricoles est vraiment une atteinte à la notion et à ce qu'on défend avec la Confédération Paysanne, donc une certaine vision de l'agriculture, donc l'agriculture paysanne, pour tout un tas de raisons que Aurélien pourra aussi développer. Et on essaye de faire en sorte que tout un tas d'orgas ne tombe pas dans le panneau, pour reprendre ce jeu de mots très facile, puisque au niveau des partis politiques, beaucoup malheureusement sur l'arc de la gauche, on va dire, de la NUPES, sont clairement tombés dans ce panneau-là. Et je les ai cités ce matin, mais on peut les reciter, ça fait jamais de mal. Hein. Oui. Le PC, le PS, Europe Écologie Les Verts accompagnent clairement ces projets avec des dissensions en interne. C'est pour ça que c'est très important qu'on continue à informer et à montrer les dangers de tous ces projets.
Passionnant. Et Aurélien, alors ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que derrière le développement du photovoltaïque en France, il y a des espoirs écologistes. Il y a beaucoup d'écologistes qui pensent que c'est bien, que c'est mieux que le nucléaire, que c'est mieux que les énergies fossiles.
Un débat qui avait eu lieu à l'époque des éoliennes aussi.
Déjà, il y avait ce problème-là. Et c'est parce qu'on on mesure mal, en fait, c'est... Par rapport à des solutions techniques, à des problèmes écologiques, on mesure mal les impacts, les effets secondaires, les impacts négatifs, environnementaux, mais aussi sociaux et autres. Et là, quand on réfléchit un petit peu, d'ailleurs ce matin c'était assez passionnant parce que moi je ne connaissais pas tous les impacts négatifs possibles sur le plan de l'environnement, là notamment avec la remontée des métaux lourds liés aux champs électromagnétiques diffus par les panneaux. Il y avait plein d'aspects que je ne connaissais pas encore, et c'est normal parce qu'en fait c'est des projets, on a très peu de recul là-dessus. On est en train de couvrir la France, les terres agricoles de France, les forêts de France de panneaux photovoltaïques, alors qu'on n'a aucune étude qui analyse de manière un petit peu précise les effets secondaires non prévus et potentiellement néfastes de ces installations-là. Et puis par ailleurs, l'argument essentiel par rapport au greenwashing qui se diffuse autour de ces projets-là, pour permettre le développement de ces projets, c'est tout simplement c'est qu'on va remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies dites propres ou renouvelables. Mais dans la mesure où l'État français, comme la plupart des nations industrielles, continue d'envisager une croissance constante de la production et de la consommation d'énergie, le photovoltaïque ne va pas remplacer le nucléaire, ne va pas remplacer le gaz, ne va pas remplacer le pétrole ni le charbon. Il va juste s'ajouter à toutes les autres avec des nouvelles nuisances qu'on ne connaît pas encore tout à fait.
La position des syndicats agricoles, donc je crois savoir que Loïc va nous parler de la position de la CONF, mais la FNSEA par exemple.
La position de la FNSEA était très intéressante parce que pendant un temps, elle ne parlait pas du mot agrivoltaïque. Elle employait que, à partir de l'an dernier, elle parlait de photovoltaïque qui devait être complémentaire avec l'activité agricole. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la CONF, on a pris une position très radicale au mois de septembre 2022. Et de suite après ça, on est les jeunes agriculteurs en France qui se sont inspirés de la position de la CONF, qui ont aussi récusé le terme agrivoltaïque et qui ont dit dans un communiqué national qu'ils allaient durcir le ton contre tous les projets agrivoltaïques. Du coup, ça a fait vraiment réfléchir Christiane Lambert, qui a dit « Oula mince, les JA sont contre notre volonté ». Donc elle a commencé à mettre en avant la notion de terre inculte, que ça ne porterait pas atteinte à l'installation des jeunes agriculteurs. Donc ça a un peu amoindri dans le débat national la position de la FNSEA, mais qui, quelques mois plus tard, a réussi à reprendre le dessus sur les JA via l'aide du gouvernement qui a été murmurée à l'oreille du président des jeunes agriculteurs. Et au mois de mars 2023, on a la FNSEA qui a pris la tête du principal lobby en France, qui est France Agrivoltaïsme, qui est co-présidé par l'inventeur du terme, Antoine Nogier, patron de Sonagri. Donc la FNSEA accompagne clairement ces projets-là, avec l'argumentaire que reprend le gouvernement Macron et Borne, c'est que l'agrivoltaïsme va être un complément de revenu pour les agriculteurs. Ce qu'avec la CONF, on dénonce, on dit notre métier est de produire une alimentation saine et de qualité et non pas de cultiver des kilowatts. Donc vraiment, c'est deux visions opposées de l'agriculture qui s'opposent.
Ah ouais, ça va être chaud comme combat quand même.
Oui, alors après, ce que nous, on trouve intéressant, c'est justement essayer de récupérer, pour démonter, pour affronter, pour se lancer dans ce combat, c'est essayer de récupérer des témoignages et de l'aide des personnes comme Valentine qui nous ont montré quelle rhétorique mettait en avant les promoteurs. Mais du coup, peut-être Valentine, tu veux développer un peu sur comment tu parlais aux élus à l'époque, quand tu les croisais, etc.
Déjà, pour rebondir sur la FNSEA, c'est vraiment... Les développeurs ont tendance à voir la FNSEA vraiment comme un allié. On essaye d'aller au plus proche des élus de la FNSEA, des chambres d'agriculture, pour les avoir de notre côté pendant les projets, pendant les CDPNAF. Et c'est vraiment tout un travail rhétorique, un travail politique de fond que font les développeurs pour vraiment pouvoir user de tous les leviers possibles pour faire passer les projets. Donc ils vont être présents au niveau des élus, des communes, des communautés de communes, dans la chambre d'agriculture. On va aussi les retrouver au niveau des lycées agricoles, dans les instituts de recherche avec lesquels ils font des partenariats pour sortir des études souvent en faveur de l'agrivoltaïsme comme par magie. Donc déjà, il y a tout ce travail de lobbying vraiment à tous les râteliers où ils peuvent bouffer, ils y vont pour vraiment s'assurer une base solide. Et c'est pour ça aussi que j'étais contente de ce rassemblement aujourd'hui, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont motivées pour s'opposer à ce rouleau compresseur photovoltaïque qui arrive. Et il y a vraiment une urgence, j'ai envie de dire, à aller vite. Parce que les développeurs savent que leur temps est compté. Ils ont vu ce que ça a fait avec l'éolien. Ils savent que ça ne dure pas plus de 10 ans avant qu'il y ait vraiment des empêchements conséquents d'un point de vue juridique, d'un point de vue opposition environnementale. Et ils savent que ça va arriver avec le photovoltaïque. Donc ils se sont lancés dans une course contre la montre où ils veulent vraiment faire passer le plus de projets possible tant que l'opinion publique est encore convaincue que le photovoltaïque, c'est quelque chose de bien pour l'environnement, de bien pour notre société. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans une bulle militante où on est à peu près tous contre ça, mais l'opinion publique, globalement, est plutôt favorable à ce genre de projet. Ils ont vu que ça pouvait changer en quelques années avec l'éolien. Ils savent que ça va arriver avec le photovoltaïque. Et du coup, ils sont vraiment en train de courir pour faire le plus d'argent avant que ça arrive. Et il ne faut pas se laisser trop distancer.
Je sais bien, vous avez pris, en tant qu'individu, en tant que collectif, le problème bien en amont. Est-ce que vous en êtes déjà arrivé au combat juridique ? Tu hochais la tête.
En amont, je ne sais pas, on a toujours un temps de retard. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la période Covid et post-Covid, tout s'est développé. Et vraiment, le coup d'accélération a été cette année 2022, où pour la première fois, Macron a employé le terme agrivoltaïque, d'abord dans un discours à Belfort en février 2022. Ça a eu. Tous les lobbies l'ont applaudi en disant que c'était une consécration. Et surtout, dans l'entre-deux-tours des présidentielles face à Le Pen, il lâche le mot agrivoltaïsme raisonné, qui doit être un complément de revenu pour nos agriculteurs. Donc vraiment, le ton était donné, c'était une préparation bien en amont. Mais le coup d'envoi a été donné là. Et en fait, on fait vraiment face à une déferlante dans tous les départements. L'Aveyron, on s'en sort bien. Pourquoi ? J'en ai pas parlé ce matin, mais la Chambre d'agriculture est contre. C'est une seule Chambre d'agriculture de France qui s'est positionnée contre, via la Conf, qui a fait voter deux motions, qui a fait l'unanimité au sein de la FNSEA et des JA. Par exemple, dans l'Aude, il y avait des amis de l'Aude ce matin, mais chaque année, ils font face à 70, 80, 100 projets, en fait, qui passent en CDPNAF. Et il y a des départements comme les PO, c'est une véritable déferlante. On a eu la Nièvre ce matin, qui fait face à 2000 hectares de projets. Donc en fait, on a toujours un temps de retard. Et c'est vrai que les développeurs se dépêchent de déposer leurs projets, puisque la loi qui va être passée va potentiellement être pas forcément plus contraignante, mais va donner un peu plus de pouvoir aux commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPNAF, où les membres, donc organisations syndicales et environnementales, pourront voter ou non pour les projets dits agrivoltaïques. Voilà, donc il y a un petit tentative de réglementation du gouvernement, justement pour mieux le faire accepter.
Est-ce qu'il y a déjà eu des recours au niveau juridique ?
Non, là, il y a dans le Lot, peut-être qu'ils t'en ont parlé ce matin, ils sont en cours parce qu'il y a vraiment des atteintes à l'environnement, etc. Mais pour l'instant, les recours juridiques sur ça sont encore balbutiants, puisque justement, tous les porteurs de projets se sont engouffrés dans un flou de la législation qui, jusqu'à maintenant, expliquait qu'il fallait juste qu'un projet soit compatible avec l'activité agricole. Et le mot compatible, ça, on peut y mettre tout ce qu'on veut, en fait, derrière. Et les promoteurs y mettaient tout ce qu'ils voulaient. Donc justement, il y avait vraiment un flou juridique dans lequel se sont engouffrés en premier lieu Sonagri, jusqu'au point de dire qu'en fait, ils ne parlent plus de parcs photovoltaïques, ils parlent d'ombrières. En fait, ils disent on ne crée pas des parcs photovoltaïques, on crée des espaces abrités pour aider l'agriculture. Et à partir de là, leur permis de construire, il est soumis uniquement aux communes et aux Comcom, et non plus à la DDT départementale, en disant nous, c'est comme si on créait une grange agricole, alors que c'était des hectares de photovoltaïque. Donc en fait, ils jouaient vraiment sur la réglementation, sur les termes, pour passer entre les mailles du filet et aller au plus simple. Voilà, donc on fait face à ça, on essaye justement ces temps-là de regrouper un peu toutes nos idées et voir comment on peut repartir sur un peu tous ces points.
C'est David contre Goliath. On vous retrouve à Bure bientôt, non ?
Ouais, on aura un moment de table ronde et aussi d'assemblée des luttes à Bure le 31 août lors des rencontres paysannes et rurales avec d'autres collectifs qui luttent contre des projets peut-être plus dans la moitié nord de la France.
Dans le nord de la France, ouais.
Dans l'idée de s'associer aussi à cette coordination nationale qui peut-être va naître bientôt.
Vous avez posé les bases de la coordination nationale ce matin, plus ou moins.
Oui, c'était ça.
Hein ?
Est-ce que tu me permets de poser deux questions à mes collègues ?
Bien sûr.
Du coup, ce qui semble intéressant d'avoir réuni Lola et Aurélien et aussi Valentine, c'était que ce qui était attentatoire à l'agriculture paysanne, c'était cette atteinte à la question de l'autonomie paysanne. Du coup, c'est pour ça qu'Aurélien est venu en parler. Et du coup, je vais te laisser la parole. Et aussi, Lola a beaucoup travaillé sur Sonagri, qui est le principal acteur de ce mouvement-là. Et du coup, si vous voulez développer un peu ça, c'est volontiers.
Aurélien.
Bah oui, oui. Là, le principal argument, là, on l'a vu, c'est un argument quasiment philanthropique et social, à vous faire à verser de chaudes larmes, parce qu'il s'agit de compléter le revenu des agriculteurs. Et en effet, on sait que le revenu des agriculteurs est très faible et que c'est une profession extrêmement difficile, avec beaucoup de gens endettés qui finissent par se suicider. Donc ça peut marcher très bien. Mais en fait, on oublie de se demander pourquoi ces agriculteurs sont dans cette situation. Et bah, ça, c'est lié justement à la modernisation de l'agriculture telle qu'elle a été envisagée, c'est-à-dire à son industrialisation, qui a fait que les paysans d'autrefois, qui étaient assez autonomes, enfin voire très autonomes, qui travaillaient avec le vivant pour se nourrir eux-mêmes et nourrir une partie de la population dans une perspective de subsistance et d'autonomie, sont devenus quoi ? Tout simplement des fournisseurs de matières premières de l'industrie agroalimentaire et aussi des débouchés captifs quasiment des grandes industries chimiques et mécaniques. Ça a été conçu comme ça, l'industrialisation de l'agriculture. Il s'agissait de créer un marché pour développer des industries mécaniques et chimiques et après d'alimenter une industrie agroalimentaire. Or, les grands industriels, que ce soit en amont ou en aval des agriculteurs, c'est eux qui maîtrisent les prix, c'est eux qui les imposent. Et en fait, ils imposent des prix tout simplement qui sont incompatibles avec le fait d'avoir un revenu digne pour les agriculteurs. Donc dans cette situation où ils sont complètement étranglés, on leur fait miroiter quelque chose qui va desserrer un petit peu l'étau, mais en même temps qui va les rendre à nouveau encore plus dépendants de ces filières industrielles et qui va leur enlever un certain nombre de garanties de sécurité qu'ils avaient. Donc ça, en fait, c'est un leurre. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on défend en tous les cas avec la Confédération Paysanne et puis plein d'autres gens, c'est d'essayer de renouer plutôt avec une agriculture la plus autonome possible, qui essaye d'être capable de produire, de fabriquer le plus ses intrants plutôt que de les acheter, d'être capable d'autoconstruire son matériel agricole, par exemple avec l'atelier paysan, et d'être capable de vendre elle-même ses produits pour ne pas subir les prix imposés par les géants de l'agro-industrie. Et l'agrivoltaïsme, tel qu'il est promu aujourd'hui, ne va absolument pas dans cette direction-là.
Est-ce que la Conf s'était déjà emparée du sujet avant que vous lui en parliez ?
Bon, je vais faire très court sur la tambouille interne, mais du coup, il y avait plein de départements de Conf qui s'étaient mobilisés, l'Aveyron, la Nièvre, etc. Et en juin 2022, le comité national, via la Conf de l'Aveyron, on a pris une position au comité national. Et donc la bataille s'est lancée nationalement à partir de juin 2022 et de la rentrée de septembre qui s'en est suivie. Voilà. Mais ça a été ric-rac par rapport au projet de loi du Sénat et au projet de loi. Voilà. Donc on était vraiment dans un timing très court. Et après, moi, ça me semble intéressant, si Lola, tu veux un peu développer sur Sonagri et un peu tes recherches.
Oui, peut-être juste avant de parler de Sonagri, qui est un peu un acteur, en effet, à la fois central dans la promotion, dans le lobbying pour l'agrivoltaïsme, juste rappeler pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, je pense, pour le terme d'agrivoltaïsme, en fait, c'est vraiment l'idée de mettre des panneaux solaires. Généralement, en fait, ce qui se fait en dessous, c'est de l'élevage, du pâturage. Les projets un peu basiques, initialement, c'était de mettre des moutons, où les promoteurs présentaient ça comme de l'élevage qui serait compatible avec la production d'énergie solaire. Donc ça paraît en effet vertueux à première vue de se dire ok, bah super, sur des mêmes terres on va faire à la fois de l'agriculture et de l'alimentation, sauf qu'en réalité on se rend compte que les moutons sont surtout là pour désherber une centrale solaire, et donc il y a eu après d'autres projets, mais concrètement faire passer des machines sous des panneaux pour faire de la culture de céréales, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est souvent de ça qu'on parle quand on parle d'agrivoltaïsme. C'est un terme qu'on dénonce évidemment parce que il y a justement des prix pour louer des terres et installer des panneaux solaires qui sont imbattables par rapport au prix à laquelle on va produire de l'alimentation sur ces mêmes terres. Et donc, on se retrouve avec des géants, des entreprises qui produisent de l'énergie, qui ont des moyens complètement disproportionnés et qui vont s'accaparer le foncier pour faire de la spéculation. On est de l'ordre de ces 150 euros pour louer des terres à destination d'un usage agricole, et des industriels d'énergie vont louer au moins 1500 euros, c'est la fourchette basse, quoi, voire 3500 euros à l'hectare pour produire de l'électricité. Donc ça crée une compétition complètement disproportionnée, et c'est une des menaces. Ça entraîne aussi une flambée du prix du foncier pour installer des nouvelles agricultrices. Agriculteurs, sans parler de la précarisation des paysannes et des paysans qui n'ont plus de baux ruraux, donc qui n'ont plus aucune sécurité. Et puis, c'est l'industrialisation de nos campagnes. Et pour Sonagri, c'est un peu le greenwashing face à ces projets un peu basique quand même de mettre des moutons sur des panneaux solaires. Il y a Sonagri, un acteur qui est donc à la base, c'est un groupe qui vient de se faire racheter par Eiffage, donc géant du BTP, avec son président Antoine Auger, qui est aussi à la tête du lobby France Agrivoltaïsme, qui a fait un lobbying intense auprès de l'État pour accélérer ces projets-là. Et eux se présentent comme un agrivoltaïsme qui serait plus vertueux, qui respecte vraiment, qui prend en compte vraiment l'agriculture en dessous, donc qui ne mettrait pas l'agriculture au second plan. Et en fait, c'est permis par des technologies numériques qui sont presque encore plus inquiétantes, puisque c'est à travers des programmes d'intelligence artificielle qui veulent faire pivoter des panneaux solaires sur des champs. Donc depuis un centre de supervision à Lyon, il y a des développeurs qui inclinent les panneaux solaires partout en France. Donc là, en termes d'autonomie, l'agriculteur, on est au niveau zéro. Évidemment, il n'a aucun contrôle sur ses panneaux. Déjà que l'autonomie est très limitée quand tu ne peux plus décider de ce que tu fais sous tes panneaux. Et donc une vision vraiment de l'agriculture numérique, qui est aussi une vision portée par notre gouvernement et soutenue à fond politiquement avec cette troisième révolution agricole qui serait tournée autour du numérique, de la robotique et de la génétique. Et derrière ça, il y a une image des agriculteurs qui sont vraiment remplacés par des robots, par des capteurs, par des serveurs. Évidemment, ça consomme énormément aussi d'électricité. C'est en très grande ligne ce que représente Sonagri, et c'est aussi un lobby très très puissant.
Mot de conclusion.
Vraiment, nous, ce qu'on dénonce avec la conf et ce qu'on met en avant, c'est que toute cette informatisation de l'agriculture et des champs va contre ce rapport sensible au monde qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire juste pouvoir regarder le ciel, écouter le chant des oiseaux, et ça, on ne peut pas le faire sous des hectares de métal, malgré ce qu'en dit le patron de Sonagri, qui, lui, trouve pas ça moche de voir des hectares de métal au-dessus de sa tête, vu qu'il n'y travaille pas, sûrement. Voilà.
Merci à tous les quatre. Merci. Yeah, Rastafari. Na 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 na. Big up, John Dub. Aqui é Apoiana Ferreira, diretamente do Brasil. Damos graças, uma só família. Fogo no sistema falido. Governo de oprimidos. Cidadão consumido, mentirosos do poder. Fogo no sistema falido, governo de oprimidos. Cidadão consumido, mentirosos do poder. Exigimos direitos iguais, uma melhor distribuição. Não só nós capitais, pros playboys. Nas áreas rurais dos guetos pra população. Exigimos direitos iguais, uma melhor distribuição. Não só nós capitais, pros playboys. Nas áreas rurais dos guetos pra população. Maioria da população hoje vive na favela. A renda é concentrada na mão de uma pequena parcela. Enquanto os boy pinta o rosto e vai bater panela, os moleques calos posto na atitude já castela. Muita sequela, trauma, cicatriz e sofrimento. Primeiro emprego certo na quebrada é o movimento. Depende de como você vai querer canalizar e o crime enriquecer, mas nunca vi aposentar. Fogo no sistema falido, governo de oprimidos, tudo que se vê. Cidadão consumido, mentirosos no poder. Fogo no sistema falido, governo de oprimidos, tudo que se vê. Cidadão consumido, mentirosos no poder. Crime dá sustento e paga bem o seu salário. Cê trampa no seu tempo, você faz o seu horário. Cê lucra 100% ou só o necessário. Você faz investimento ou gasta tudo como otário. Destinatário é a utilização. Pode ser necessidade mesmo ou só ostentação. Tem os que aposta tudo mesmo, só quer diversão. Os que quer ser robinho de outros, quer só ter condição. Vou te falar que sua caminhada não vale se você não tem emprego, não falta bocada lotada de gente que vai e que vem. Ninguém quer perder na jogada, só quer numerada de nota de 100. No gueto função dá dinheiro, playboy viciado dá tudo que tem. Exigimos direitos iguais, uma melhor distribuição. Não só
son los capitais pros playboys. Já no, nas áreas rurais dos guetos da população. Rastafari. Straight from Brazil, Rasta.